Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc. J'ai le plaisir de recevoir en ce matin de Noël Michel Leduc, notre amie de l'Union rationaliste, physicienne au CNRS, au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure, et Hélène Perrin, qui est physicienne au CNRS, au laboratoire de physique des lasers à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Cette émission de ce matin est l'occasion de rendre hommage à Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique 2022, qu'il partage avec l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John Clauser pour des travaux pionniers sur l'intrication quantique et son application aux communications quantiques. Ce concept est difficile et est à la base de la mécanique quantique, une théorie vieille de plus de 100 ans qui fait toujours parler d'elle. Il va être éclairé pour nous par Hélène Perrin, responsable du réseau Quantip pour les technologies quantiques soutenues par la région Île-de-France.
Bonjour Hélène, je voudrais d'abord vous demander l'intrication quantique, que vous l'expliquiez en termes simples pour nos auditeurs. On sait que l'intrication quantique prévoit que deux particules qui sont jointes au départ, comme pour l'être des jumeaux, peuvent garder la marque de leur passé commun et avoir une distance, à distance, un comportement semblable. Pouvez-vous nous en parler ?
Bonjour à tous. Alors, juste pour replacer un petit peu ce concept, il est vrai un petit peu difficile dans le contexte du prix Nobel et des expériences d'Alain Aspect. Je voudrais quand même rappeler que au départ, la motivation de ces expériences, elle est purement fondamentale. Il s'agit de résoudre une controverse entre Albert Einstein et Niels Bohr, qui date des années 30. Niels Bohr disait que les particules pouvaient être décrites de façon commune, donc les deux photons jumeaux, là en l'occurrence, pouvaient être décrits par une seule grandeur commune, quelle que soit leur distance, même quand ils sont séparés à des kilomètres, une à Paris, une à Tokyo par exemple, alors que Albert Einstein, ça heurtait son intuition physique et il pensait qu'il devait y avoir, pour expliquer le fait que les résultats de mesure à très grande distance pouvaient être les mêmes, des variables cachées qui pourraient expliquer ce phénomène. Alors c'est resté pendant longtemps juste une question épistémologique, bon, qui a raison, et ce qui a changé les choses, c'est que dans les années 60, John Bell, un physicien américain, a montré qu'on pouvait faire une expérience qui trancherait pour savoir si Einstein ou Bohr avaient raison sur ce point. Et c'est cette expérience qu'Alain Aspect a faite dans les années 80 et pour laquelle il a eu le prix Nobel. Et donc cette intrication quantique, elle décrit le fait que deux particules qui sont par exemple produites ensemble depuis leur naissance ont une propriété commune qu'elles vont garder, y compris quand on les éloigne à des kilomètres ou des centaines de kilomètres de distance l'une de l'autre. Ce qui est fascinant avec ces expériences, c'est que donc Einstein finalement n'avait pas raison sur ce point. C'était Bohr qui avait raison. Il ne peut pas toujours avoir raison. Ouais. Et les expériences d'Alain Aspect l'ont démontré de façon extrêmement convaincante. Après, il y a eu d'autres expériences qui ont fait des raffinements, etc. Donc, par exemple, celle d'Anton Zeilinger dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment ces expériences-là qui ont convaincu la communauté que Bohr avait raison et que l'intrication quantique, ça existait vraiment. Et qu'il n'y avait pas de variable cachée. Ce qui est fascinant, c'est que c'était quand même vraiment une motivation fondamentale, presque épistémologique, qui a donné lieu à ces expériences. Et pourtant, le fait que ces deux particules puissent être des photons, des petits grains de lumière, c'est aussi les photons qui sont utilisés dans les fibres optiques pour les télécommunications à grande distance ou pour Internet. Et donc ça a ouvert la voie à des applications qui n'étaient pas du tout les motivations initiales des expériences.
Alors on dit volontiers qu'on est maintenant entré dans ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, donc ce phénomène d'intrication qui est au cœur de cette soi-disant révolution, a ouvert la voie à des nouvelles technologies pour l'informatique quantique et pour les communications ultra sécurisées. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de réalisations ?
Alors, je vais revenir sur l'exemple le plus direct, qui découle directement des expériences pionnières d'un aspect, qui est l'échange d'informations sécurisées, cryptées à grande distance. Donc là, il y a un enjeu énorme parce que, par exemple, des échanges bancaires ou des échanges stratégiques, il faut absolument avoir des canaux de communication sécurisés. Et tous les canaux qu'on dit classiques qui peuvent exister, ils sont vulnérables dans le sens où si on écoute avec un très bon ampli, on peut entendre la conversation, on peut récupérer une clé, par exemple, une clé secrète. Voilà, ils ont des câbles et on peut récupérer un peu d'informations. Avec la mécanique quantique, le fait que les particules qu'on sépare comme ça sont intriquées, donc elles ont des résultats de mesure parfaitement corrélés, par exemple, toutes les deux ont un résultat ou toutes les deux ont l'autre. Si jamais quelqu'un écoute la conversation quantique et fait des mesures, à ce moment-là, ça va détruire cette intrication. Et donc, les deux partenaires qui essayent d'avoir un échange secret vont s'en rendre compte. Et donc, c'est là-dessus que repose la sécurité de ces nouveaux processus de cryptologie quantique, donc d'échange de clés secrètes qui repose sur la mécanique quantique. Et ça, c'est vraiment une conséquence directe des expériences d'un aspect qui, pourtant, avait des motivations tout à fait fondamentales. Donc, et maintenant, de nos jours, il y a des solutions commerciales pour acheter des appareils qui envoient des photons à grande distance de façon cryptée et sécurisée. Et maintenant, ça n'utilise même pas seulement que des fibres optiques, mais aussi, par exemple, des satellites. Il y a eu des démonstrations d'échanges de clés secrètes entre la Chine et l'Autriche par satellite. Donc, ça Ellinger est impliqué là-dedans. Et à l'échelle de la région Île-de-France, nous, on essaye de monter un réseau d'échanges avec des fibres complètement cryptées pour des échanges de clés sécurisés au niveau de la région.
Oui, enfin, est-ce que tu pourrais, quand tu donnes ces exemples, nous dire si tu y vois un progrès? Est-ce que tu penses que ça va aider la société à mieux vivre dans son ensemble?
Moi, je pense que chaque petite chose qui progresse dans la science, on peut trouver des applications qui sont intéressantes pour la société. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était illustré par l'exemple des expériences d'un aspect. Au moment où on fait les expériences, on n'a pas forcément toujours l'idée des applications qui pourront en découler.
Donc, il peut y en avoir d'inutiles.
Il peut y avoir de tout.
Et d'autres dangereuses, oui.
Ça, oui, j'imagine peut-être pas forcément dans ce contexte précis. Mais je voudrais peut-être citer un deuxième exemple, au-delà des échanges de clés secrètes. C'est quelque chose dont parle beaucoup aussi. Forcément, Michel, vous en avez entendu parler. C'est le fameux ordinateur quantique. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? C'est l'idée qu'en utilisant les propriétés de la mécanique quantique, donc toujours ces propriétés d'intrication qui font que les particules se parlent entre elles, en quelque sorte, on peut résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques beaucoup plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Donc ça, c'est parce que la mécanique quantique, naturellement, elle a un côté parallélisme qui est inclus dans sa façon de procéder. Donc elle parallélise naturellement les calculs. Et donc, c'est particulièrement bien adapté pour des problèmes d'optimisation. Donc, un exemple que je peux donner et qui est assez actuel, c'est l'optimisation de la répartition de l'électricité en période de pénurie. Donc, comment faire ça au mieux? À ce moment-là, ce genre de problème, un ordinateur quantique sera capable de le résoudre plus rapidement qu'un ordinateur classique. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont remplacer les ordinateurs classiques, parce que pour d'autres types de problèmes, ils ne sont pas adaptés. Il faut plutôt s'imaginer qu'à l'intérieur d'un supercalculateur classique, il va y avoir un petit processeur quantique qui va être appelé de temps en temps pour faire des calculs spécifiques pour lesquels il est plus rapide que l'ordinateur classique. Donc on pourra parler d'accélération quantique grâce à toujours ces phénomènes d'intrication qui ont été récompensés par le prix Nobel.
Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur les besoins de la rationalité dans le domaine des techno-quantiques? L'exemple de l'ordinateur quantique que vous venez de décrire en est un bon, parce que on entend un peu tout et rien sur l'ordinateur quantique. Le public ne sait pas très bien quels experts il doit croire. On parle de suprématie quantique avec Google qui investit beaucoup. Donc le sujet est complexe. complexe.
Oui, le sujet est complexe, surtout que pour se mettre dedans, ça demande quand même un ticket d'entrée assez cher pour réussir à comprendre précisément de quoi il retourne. Ce que je peux dire, c'est que les progrès dans ce domaine, ils sont à la fois très rapides, avec des démonstrations expérimentales très impressionnantes. Donc, il n'y a peut-être pas de suprématie quantique à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y a des démonstrations de très grande qualité sur la précision des opérations qui peuvent être faites. Et en même temps, c'est lent à l'échelle des besoins exprimés par la société. On voudrait l'avoir tout de suite, ce supercalculateur. Donc, avant qu'un ordinateur quantique universel et de grande taille puisse voir le jour, il faut d'abord maîtriser le taux d'erreur de ces calculs parce que ces états quantiques sont fragiles. Si on les fait interagir avec leur environnement, ils peuvent s'abîmer et donc le calcul va être moins précis. Mais même avec des ordinateurs quantiques imparfaits ou des petits calculateurs quantiques, on peut déjà résoudre des problèmes intéressants du moment que ce sont des problèmes bien spécifiques et bien pointés pour lesquels ces calculateurs sont adaptés. C'est sûr que là, on avance pas à pas comme en science, mais les progrès sont réels, donc il n'y a pas de raison d'être pessimiste.
Oui, mais peut-être vous pourriez nous dire ce que vous pensez quand vous entendez quelqu'un vous dire « Oh, ça ne marchera jamais !» Parce qu'on entend ça sur l'ordinateur quantique.
Moi, je serais très prudente là-dessus parce que je l'ai entendu plein de fois dans ma carrière de chercheuse, y compris par des collègues. J'ai encore le souvenir, au début des années 2000, par exemple, de collègues qui disaient « Oh non, mais là, c'est des théoriciens fous, ils prétendent qu'on va réaliser cette expérience, mais en fait, ça marchera jamais parce que tel était l'argument. » Et puis, on n'est pas à l'abri de bonnes idées, en particulier du côté des expérimentateurs, et puis qui trouvent un moyen de contournement. Deux ans après, la chose qui était censée jamais marcher avait été démontrée expérimentalement. Donc, je dirais pas et que ça marchera jamais.
Peut-être par sérendipité. Hein. Oui. Donc, une dernière question peut-être. Pourriez-vous, en tant que responsable des technologies quantiques dans la région de France, nous expliquer, dans votre cas, comment s'opère, comment vous voyez le transfert de la recherche aux applications dans le domaine du quantique? Comment se développent des start-up? Pourquoi ce domaine semble attirer beaucoup les jeunes par rapport à d'autres?
Oui, c'est vrai que c'est un domaine, un très bel exemple où les idées des labos peuvent se concrétiser assez rapidement dans la création de petites entreprises ou le transfert de technologies vers des entreprises existantes. L'idée va du labo à la démonstration expérimentale, puis au prototype et puis à la start-up. Et on a beaucoup d'exemples récents autour de nous, notamment dans la région. Il y a une start-up issue d'un laboratoire du sud de Paris, du centre de nanosciences et nanotechnologie, qui est capable de produire des photons un par un. Donc ça, c'est les photons dont on a besoin pour faire ces communications quantiques et ces échanges de clés secrètes. Il y a une autre start-up qui est issue du laboratoire Charles Fabry, qui permet de produire un petit calculateur quantique à base d'atomes froids. Donc la première s'appelle Candela, la deuxième s'appelle Pascal. Il y a aussi une start-up qui s'appelle Alice et Bob, qui est issue du laboratoire de physique de l'École normale supérieure et de l'INRIA, qui produit des petits éléments pour un futur ordinateur quantique sans erreur. Donc toutes ces petites pépites ont émergé des laboratoires et en ce moment il y a un réel effort pour les accompagner et pour réussir à passer le cap du chercheur de laboratoire à l'industrie. Et je dois dire que effectivement, Michel, il y a de plus en plus de jeunes que ça intéresse et qui se lancent dans l'aventure, soit juste après leur thèse, soit même déjà au niveau du doctorat. Ces petites entreprises qui sont des pépites de haute technologie quand même ont besoin de scientifiques dans leur personnel et elles embauchent des docteurs, elles embauchent des ingénieurs en électronique, etc. Donc il y a une grande dynamique en France actuellement sur les nouvelles technologies quantiques et l'avantage aussi de ce domaine qui est une des raisons pour laquelle ça attire, c'est que c'est très interdisciplinaire. C'est-à-dire, il faut faire marcher ensemble des sciences des matériaux, des chimistes, des physiciens, des informaticiens, des mathématiciens, des électroniciens. Et puis ensuite, une fois que la start-up a démarré, bah évidemment, comme dans toute entreprise, il y a aussi d'autres métiers qui viennent se rajouter à l'aventure. Donc, de façon plus générale, le fait que des idées qui sont nées dans les laboratoires, parfois très fondamentales, comme les expériences d'un aspect, puissent trouver une réalisation concrète et utile dans la société, je trouve ça assez remarquable. Et c'est quelque chose dont on a la chance de bénéficier dans le domaine en ce moment. Et c'est vraiment une aventure fascinante.
Est-ce que vous ne manquez pas d'étudiants et de chercheurs en...
Alors oui, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu. Donc j'encourage les jeunes à vraiment tenter cette aventure parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de talents dans ces domaines-là. Et gérer des talents à tous les niveaux, hein, parce qu'il faut des doctorants en physique ou en informatique, etc. Mais il faut aussi des ingénieurs et des techniciens pour faire marcher ces machines. Le domaine des technologies quantiques, en ce moment, cherche à former un grand nombre de jeunes. Il y a eu même une action nationale coordonnée pour essayer de former ces jeunes. Moi, j'encourage les jeunes à choisir ces disciplines, et notamment les jeunes filles qui sont souvent un peu réticentes à se diriger vers les sciences. C'est quand même un domaine qui est absolument passionnant. Donc, vous qui êtes au lycée, vous posez des questions, je vous en prie, allez-y, osez.
Osez
faire de la physique et vous diriger dans ces domaines.
Et peut-être pousser les portes des journées portes ouvertes dans vos universités.
Oui, voilà, on fait. Là, on sort de la fête de la science.
Hein. Oui.
Elle a eu lieu à l'automne dernier. C'est une occasion de rencontrer les jeunes et les sensibiliser à ce genre de technologie. En général, ça marche bien. Ils ont les yeux qui brillent. Donc, il faut voir qu'il y a de la place un peu pour tout le monde dans ce domaine-là.
Mais c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Hélène Perrin, Michel Leduc, je vous remercie.
Merci.
Je rappelle le dernier numéro de Raison Présente, le numéro 223-224, intitulé « Santé publique et démocratie sanitaire ». En ce jour de Noël, je renvoie au site de l'Union Rationaliste et notamment à une rubrique que nous avons relancée avec la relance du groupe Transition écologique et rationalité. Sur le site, nous avons regroupé les fiches à jour sur les grandes questions d'écologie que les professeurs peuvent aller voir et puiser des informations mises à jour sur ce site. Je remercie Ludovic Auger, Luc-Jean Reynaud et Claire Poinsignon qui ont rendu possible cette émission, et je vous dis au mois prochain.